BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir sincèrement que de vous retrouver tous les week-ends pour votre rendez-vous d'actu tech. De quoi je me mêle à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé le week-end, mais aussi sur YouTube, vous le savez, et sur la plateforme Tech & Co, la plateforme Tech & Co qui est un site web d'actualité, 24h sur 24 bien sûr, une émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business qui s'appelle Tech & Co, et puis évidemment une chaîne de télé que vous retrouvez sur les box opérateurs et sur Molotov. Avec pour De quoi je me mêle aujourd'hui, tout à l'heure, Lionel Paris qui nous rejoindra. Vous savez, Lionel aime bien venir avec ses tournevis démonter un peu tout ce qu'il peut démonter. Alors, il ne va pas démonter le studio, mais il va nous parler d'Intel qui abandonne le NUC. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous rappelez de ce que c'était ces petits PC plutôt pratiques? Eh bien, visiblement, tout ça, ça passe à la trappe. On parlera aussi de Starlink, le réseau évolue. On parlera aussi de Wi-Fi 7, ce sera en deuxième partie de quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag DQJMM pour nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse IT pour débuter avec aujourd'hui Anthony Morel, bien sûr, vous le connaissez, la valeur sûre, la force tranquille.
Ah, mais jamais présenté comme ça, la force tranquille, ouais, très bien.
Okay. La force tranquille de la tech, ouais. Que vous retrouvez à peu près dans toutes les émissions de tous les médias d'Altice, mais plus précisément dans Good Morning Business et puis chez Estelle Denis,
ouais, hein,
à la fois sur BFM Business et RMC.
Salut tout le monde.
Ravi de te retrouver et je crois que c'est une première dans De quoi je me mêle. Nous accueillons Olivier Frigara.
Bienvenue.
La classe.
Ce ne sera pas une dernière.
Quand même. Mais non, pas forcément. Ou bien au contraire. Je suis ravi de t'accueillir, Olivier.
Merci pour l'invitation, François.
Olivier Frigara, que vous connaissez forcément si vous vous intéressez à l'actutech, que vous regardez dans Refait le Mac depuis combien d'années, Olivier?
14 saisons.
14 saisons. Eh ouais, c'est pas mal quand même. Hein,
c'est pas mal.
Il ne fait pas le bougre.
Ouais.
Maquillage.
Tu es avec nous pour commenter, et avec Anthony, bien sûr, les annonces d'Apple cette semaine. C'est vrai qu'on s'est dit, ben voilà, tu as vécu comme nous cette keynote que tu as retransmise sur ta chaîne et sur ta plateforme. Nous aussi, voilà, et ça fait 48 heures. Anthony, tu en as beaucoup parlé aussi parce que c'est malgré tout l'actu tech. Autant vous dire que, voilà, on est un peu déçus, hein, mais c'est pas la première année qu'on dit, et c'est sans doute pas la dernière. On s'attendait pas grand-chose et finalement, on n'a pas eu grand-chose. Alors, c'est toujours un peu complexe parce que malgré tout, il y a des nouveautés. On va prendre le temps de les découvrir. Peut-être demander à Olivier, déjà, ton sentiment, avant d'entrer dans le détail des iPhones, des Apple Watch, etc., ton sentiment sur cette keynote, donc, crue 2023, qui a annoncé les iPhone 15.
Bah, tu l'as très bien résumé. Il n'y a pas forcément de grosses annonces. C'était des annonces assez attendues. Et c'est ça, que moi, qui me frustre au fil des années. C'est-à-dire qu'Apple, jusqu'à maintenant, était la société qui cultivait justement le secret à outrance, et qu'avant une keynote, on avait toujours la petite dose d'adrénaline, se dire quel sera le One More Thing.
Ouais, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, voilà, de la marmite.
Mon petit cœur de geek allait battre plus fort. Et depuis quelques années, les liqueurs sont tout genre, hein, qui sont plutôt bien installés en Chine et qui, c'est là où sont produits l'essentiel des
Ming Shu Kuo.
Et j'en parle, c'est des meilleurs. Diffuse à longueur de mois toutes les infos. Et effectivement, il y a eu quasiment toutes les annonces qui ont été dévoilées à l'avance, hormis l'iPhone Ultra, on en parlera. Et c'est vrai que ça nous gâche un peu le plaisir. Voilà. Au-delà, effectivement, tu l'as dit, pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'avancées. Il y a quelques avancées intéressantes, mais rien de révolutionnaire. Ça reste de l'incrémental.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Anthony ?
Oui, c'est le mot-clé, incrémental. J'aurais utilisé le même mot, c'est-à-dire des innovations qui se font pas à pas, à tout petit pas, à toute petite touche, mais on n'a pas la rupture technologique qu'on attend chaque année. J'ai un peu l'impression d'être dans le jour de la marmotte,
ah
là, tu sais.
Ah, mais c'est, ça.
C'est-à-dire que c'est-à-dire que toutes les keynotes, à chaque fois, tu sais,
on sait la même chose.
Mais oui, c'est ça, t'arrives, tu dis, ah, ça va être génial, il va y avoir des innovations formidables. Bon, même si t'as eu les leaks avant, t'attends, tu vois le truc. Bon, bah finalement, il n'y a pas d'innovation majeure. On revient, on débrief, et puis l'année d'après, c'est un petit peu la même chose. Et moi, c'est pareil, du coup, je reste un petit peu sur ma faim de ce point de vue-là. On va se mettre d'accord tout de suite. Les iPhone 15 et 15 Pro sont d'excellents téléphones, oui, probablement sûr, les meilleurs du marché. Mais en fait, ce qu'on regarde fondamentalement, quand Apple et quand une entreprise convoque le monde entier en disant « on a des trucs à vous montrer », eh ben, c'est les innovations technologiques, les nouveautés fondamentales d'une année sur l'autre. Or là, clairement, il y a de quoi être un petit peu déçu parce que vraiment, on manque de choses à se mettre sous la dent. On peut entrer dans le détail, mais c'est vrai que sur l'iPhone 15 Pro et surtout sur l'iPhone 15, on a un peu l'impression parfois qu'ils se moquent du monde.
C'est pas terrible. D'ailleurs, ça ouvre des débats assez intéressants parce que c'est vrai que cette keynote a donné une place importante à l'environnement, qui est un sujet assez important pour Apple, parce qu'il y a Samsung derrière, qui déroule quand même une roadmap de décarbonation qui est quand même assez impressionnante, et Apple ne peut pas rester sur le bas-côté de la route. Mais d'un côté, on se dit, est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir ce rendez-vous début septembre pour présenter un téléphone qui ressemble tellement au précédent qu'on n'arrive même plus à les reconnaître?
C'est un peu contradictoire dans le discours.
C'est un peu contradictoire.
Parce qu'ils ont vraiment passé un quart de la keynote, peut-être pas, mais vraiment un gros morceau de la keynote à nous parler d'environnement, de l'empreinte carbone, du fait que leur produit allait être neutre en carbone à l'horizon 2030, je crois, avec des premiers pas, notamment les Apple Watch qui sont déjà neutres en carbone. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisent de l'énergie renouvelable pour la fabrication, des matériaux qui sont moins polluants, de la fibre à la place du plastique dans les emballages, de la compensation aussi avec des achats de la plantation de forêt, etc. Bon, très bien. Mais à côté de ça, ils nous sortent tous les ans des smartphones avec des évolutions technologiques qui sont quand même relativement faibles d'un modèle à l'autre. Et si on veut commencer à entrer un petit peu dans le dur, moi, ce qui m'a surtout frustré, on parlera du 15 Pro après, parce qu'effectivement, il y a quand même des choses intéressantes. Hein. Tout n'est pas acheté, évidemment. Mais sur le 15, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils nous ressortaient le 14 Pro de l'an dernier, reboutiqué un petit peu différemment, avec une connectique USB-C, et c'est finalement la seule différence fondamentale. Le reste, c'est vraiment la même chose.
On va revenir en détail sur justement les innovations, mais je voulais te poser la question, est-ce que c'est toujours pertinent, Olivier, à ton avis, d'avoir ce rendez-vous pour Apple tous les ans, tant qu'il n'y a pas, on va dire, le truc de rupture, je ne sais pas, moi, un pliant qui arrive, une paire de lunettes un peu plus... Mais là, c'est vrai que c'est... On sent qu'il y a du business derrière, ils font ça parce qu'il faut qu'ils remplissent les caisses à chaque fois, mais ça va contre sens de cette notion, on fait attention à la planète, on mise sur l'environnement, non ?
C'est un peu contradictoire, c'est vrai, dans le message, et puis au-delà, tu ne convoques pas 2 ou 3 000 personnes à une keynote qui viennent du monde entier si tu veux faire de l'économie et sauver la planète, pour suivre en direct un écran de télévision.
C'est 2 ou 3 000 personnes qui viennent
Chaque année, donc il y a du monde.
Bon, alors, il y en a beaucoup qui viennent des US, mais...
Et puis, il y a 4 coins du monde, mais... Non, il y a plusieurs analyses, bref. Premièrement, le fait de faire une keynote chaque année, c'est une tradition. Dans l'univers de la tech, vous le savez, si on prend une symbolique footballistique, c'est la finale de la Champions League chaque année, l'Apple
Event. Oui, bien sûr.
Donc, il n'est pas question qu'Apple arrête, parce qu'en termes de retombées et de communication, c'est considérable. Il y a des études qui sont faites chaque année sur les retombées publicitaires gratuites de ce genre d'event.
Ça doit être incroyable.
Aujourd'hui, on en parle pendant presque une demi-heure ensemble.
Mais bien sûr.
C'est quand même, en termes de retombées com et de citations d'Apple, une mine.
Après, on est
incroyable.
Un média spécialisé. C'est-à-dire que nous, on vit de ça. Je suis pas sûr que les grands médias mainstream
c'est un des seuls événements technologiques de l'année, avec le CES de Las Vegas peut-être, où effectivement les médias mainstream le reprennent. Alors en France, ça a été un peu entaché entre guillemets, parce que le même jour, tu as la fameuse histoire
parasité,
t'as raison, c'est le bon mot, par l'histoire de l'iPhone 12 l'agence des fréquences qui dit que l'iPhone
a communiqué tout à l'heure.
Mais en tout cas, du coup, tous les médias mainstream ont repris ça plutôt que les nouveaux iPhone 15. Mais en général, sinon, à chaque fois que tu as la keynote d'Apple, le lendemain, tu as le bilan, alors les nouveaux iPhones, est-ce que ça vaut le coup, etc.
Donc, c'est le seul événement tech grand public. Ouais. Ça touche tout le monde, l'arrivée d'un nouvel iPhone. Alors, c'est quoi le nouvel iPhone? Même si on n'est pas un geek, même si on n'est pas passionné de technologie. Donc ça c'est devenu un marqueur fort.
Ça dépasse le...
Apple n'est plus le numéro 2 du marché ou le numéro 10 du marché du temps de Steve Jobs, où il devait marquer sa différence, figure différente pour rattraper Microsoft du temps du PC, avec des designs complètement fous.
C'est
plus l'outsider, cherchez le mot, merci. Aujourd'hui, ils font des évolutions de manière incrémentale parce qu'ils peuvent se le permettre. Au-delà, je pense que c'est une analyse toute personnelle. Je pense qu'ils ont pris conscience de quelque chose depuis maintenant quelques mois. Et pour moi, l'événement principal de cette, vous n'en avez pas parlé, de cette keynote, c'est la baisse de prix. Apple qui baisse les prix. Ouais. Vous avez vu ça où, les amis ? C'est historique.
Pas qu'ils baissent les prix en France, que les prix aux États-Unis, c'est les mêmes, en fait. Mais c'est avec la parité euro-dollar qu'on revient à quelque chose.
C'était déjà la même chose. Donc, il y a quand même une prise de conscience qu'en dehors de leur territoire américain, alors qu'aux États-Unis, l'impact du prix a moins d'importance, parce qu'aux États-Unis, l'iPhone s'achète à crédit. Hein, c'est des primes opérateurs comme feu autrefois en France. Il y a aussi une prise de conscience. Mais voilà. Donc, il y a aussi une prise de conscience chez Apple que les habitudes de consommation ont changé.
Ouais, je pense que sur la baisse de prix, il y a aussi une prise de conscience que le pricing power d'Apple, parce que c'était leur grande force, c'est-à-dire la capacité d'Apple, comme des grandes marques de luxe par exemple, à imposer leur prix parce que c'est la marque, et donc voilà, on peut mettre le prix qu'on veut, finalement, le consommateur paiera, eh bien, ne peut pas monter non plus jusqu'au ciel et qu'il a des limites. Et il commence à s'en rendre compte parce que dans les résultats financiers d'Apple sur les derniers trimestres, ça commence à baisser légèrement, mais ça s'effrite un petit peu. Si tu vas en Chine, où les jeunes Chinois ont traditionnellement, enfin depuis des années en tout cas, sont fascinés par Apple, absolument, ils ne veulent que du Apple, bah là, ça commence à changer un petit peu les mentalités, ils commencent à s'intéresser à Oppo, à Xiaomi, à se rendre compte qu'ils ont des fabricants locaux qui sont très innovants aussi.
Il y a un sentiment national aussi.
Aussi. Absolument. Et donc, du coup, je pense qu'Apple commence à se dire, bah là, on a peut-être touché la limite en termes de prix. On est au bon curseur, finalement, tout simplement.
Mais ça, tu vois, on reproche souvent à Apple d'être dans sa tour d'ivoire. Tim Cook en particulier, qui manque d'innovation, qui ne regarde pas le marché, etc. etc.
Ouais, bah, il le suit
et là, apparemment, pour prendre ce genre de décision-là, c'est qu'il y a un petit signal, un petit voyant qui s'est allumé. Et ils y font attention. Donc ça, je trouve ça assez... Ouais. Cette réactivité-là, des grandes entreprises n'ont pas toujours.
Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, donc, certains modèles d'iPhone ont baissé, parce que je crois qu'ils n'ont pas tous baissé.
Non, il y en a un qui monte de 100 $.
Voilà, ouais. C'est ça. Je crois que c'est le Pro Max qui gagne, il passe à 256 gigas d'entrée.
Oui, parce qu'il gagne.
Il prend 128 gigas, donc il coûte 100 euros de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les modèles sortis l'année dernière baissent de prix.
Ouais. C'est ça.
Par rapport à il y a 12 mois.
C'est ça. Et l'iPhone 15 de base, entre guillemets, repasse sous les 1 000 euros en Europe, ce qui est un marqueur aussi.
Alors, quoi qu'il y ait un peu dans l'écho, est-ce que c'est une baisse mécanique parce que la parité euro-dollar a changé par rapport à l'année dernière, ou est-ce qu'il y a aussi une stratégie de la part d'Apple de rogner un peu sur ses marges en Europe pour redevenir un petit peu attractif en termes de prix?
Peut-être que c'est ça, tu as raison. S'ils auraient pu décider que finalement la parité euro-dollar a changé, mais qu'eux n'allaient pas changer leur prix. Donc, effectivement, je pense qu'ils repassent sous un seuil symbolique, là, le seuil des 1 000 euros, et du coup,
on a une expression dans le Mac avec notre chroniqueur Laurent Pantanache, c'est de parler de la taxe Apple. Apple a de tradition en Europe, taxe, et prévoit une sécurité, une assurance en matière de taux de change très élevée.
Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a la taxe aussi copie privée.
Mais
ça rentre dans le prix.
Des fois, il y a
prix.
Des écarts qui vont jusqu'à 10-15% par rapport aux États-Unis. C'est très confortable. Et pour en avoir discuté souvent avec des responsables d'Apple, européens, et qui se battaient pour essayer de vendre en France contre leurs collègues américains avec des prix qui soient attractifs. Quand tu dis il ne faut pas être sous la barre symbolique des 999 euros, c'est important pour vendre un téléphone. Ils considèrent que c'est les marchés export d'Apple qui financent les baisses de prix aux États-Unis. Et pendant des années, ça a été ça. Là, il y a une prise de conscience. Donc, c'est heureux. Au-delà, pour le côté greenwashing, pour le côté manque d'innovation, pour le côté un petit peu regardez, Apple, c'est formidable. La marque Apple, quand Steve est parti il y a quelques années, il a légué comme une entreprise en or massif à Tim Cook. En or massif au sens que la roadmap, elle est toujours là. Les produits étaient installés. La bombe atomique qui a été lancée avec l'iPhone était en orbite. Et surtout, c'était la marque la plus cool. Et si tu parlais tout à l'heure de marque de luxe, et c'est une marque, c'était considéré comme une marque premium, avec une marge brute supérieure à ce que fait aujourd'hui un Louis Vuitton en France. Pour une marque tech, c'est inédit. Absolument. Par contre, cette image de marque s'est un peu étiolée au fil des années. Apple est devenu un leader, est devenu un big tech, comme on dit, et qu'aujourd'hui, il est nécessaire aussi de placer quelques marqueurs. Et si on prend un peu de recul et qu'on se dit qu'une entreprise avec un tel pouvoir, avec une telle influence, prenne 25 minutes ou 20 minutes à parler de green dans une keynote, c'est aussi très bien. Il faut aussi le dire.
Parce que c'est
des enjeux qui ne sont pas forcément populaires. Et on sait très bien que ce n'est pas un argument de vente. Ce n'est pas un argument de vente aujourd'hui.
Ça commence à l'être. Ça
de moins en moins. Ouais. Par contre, ce qu'ils ont...
En tout cas, ça va dans le sens de l'histoire et dans le sens de... Enfin, tu as eu quelques points de...
Surtout chez les jeunes générations, ils sont...
Ouais, mais les jeunes générations...
Matrixer à ça, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, c'est vraiment ce truc... C'est l'environnement.
Je ne ferais pas un iPhone si Apple ne communiquait pas autant sur l'environnement, tu vois.
Oui, justement. Si, c'est ce que je dis.
Tu penses? Je suis pas sûr.
Je suis pas certain.
Je pense que c'est un argument de vente supplémentaire.
Oui, c'est
en tout
un
cas.
Argument
dans l'arbitrage entre
achat,
dans l'arbitrage entre iPhone et Android.
Keynote, je sais pas.
Ouais. Alors, vous avez pensé quoi du petit sketch là? Moi, j'ai l'espèce de truc qu'ils ont monté.
Oui.
Avec Mère Nature.
Avec Mère Nature. Qui arrive. Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la keynote, c'était un moment assez particulier. Déjà, alors juste sur la qualité de production des keynotes, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que c'est assez impressionnant.
Ils ont inventé la keynote.
Ça pourrait être diffusé sur Apple TV Plus.
Les keynotes traditionnelles, c'était les keynotes en direct. Moi, ce que j'aimais beaucoup, je préférais à ce ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, tout est complètement monté comme un film ou une série. Finalement, tout est enregistré. Donc, c'est très dense comme présentation.
Il n'y a pas de temps mort.
Il n'y a pas de temps mort. Ah. Et ils incorporent des vidéos, des petits sketchs et tout. Et donc, il y a cette vidéo où donc, Tim Cook et quelques cadres d'Apple sont dans un bureau. Ils sont tous en stress et tout. Il y a une réunion qui se prépare. Mmh. Alors, elle va arriver. On se demande qui est cette personnalité très, très importante qui va arriver. Et donc, c'est Mère Nature qui débarque dans la salle, donc, qui est incarnée par une actrice très connue dont j'ai mangé le nom parce que je suis très mauvais en actrice.
La psy dans Ted Lasso.
Voilà, exactement. Et donc, elle arrive et c'est Mère Nature qui vient demander des comptes à Apple sur, justement, son bilan vert. Et donc, Tim Cook, qui est tout tremblant, lui donne sa consommation d'électricité et tout. Moi, j'ai trouvé ça très bizarre. Je trouve que l'intention est bonne, mais j'ai trouvé la réalisation un peu étonnante. C'est-à-dire que ce discours de Mère Nature qui arrive quasiment en parrain de la mafia, qui vient demander des comptes, et tout le monde qui est tremblant devant elle en train de lui dire « Non, mais attendez, on a baissé notre consommation en eau et tout. » Je trouvais ça limite gênant, en fait, mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
Bah, après, tout dépend. C'est vrai que je pense qu'il y a aussi peut-être un écart culturel. Peut-être qu'aux US, ça passe mieux, tu vois, ce truc. Ils ont peut-être un second degré, même dans ce domaine de l'environnement. Il faut dire que l'environnement n'a pas le même impact aux US qu'en Europe. Hein. Nous, on est vraiment
J'adore le second degré et ça m'aurait fait...
Ça m'a pas choqué. Sincèrement, j'ai trouvé ça plutôt amusant. Mais bon, voilà. Enfin, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'un des concurrents principaux d'Apple, c'est Samsung, et que Samsung a déroulé depuis pas mal d'années une espèce de plan de décarbonation qui est incroyable, avec la décarbonation totale d'usines, de milliers de mètres carrés, enfin voilà, ils ont vraiment une roadmap, et je pense qu'Apple, même s'ils avaient la volonté de le faire, là se sont retrouvés au pied du mur en disant il faut qu'on fasse au moins aussi bien que Samsung, parce que finalement, on est aussi gros qu'eux. Il faut qu'on marque le territoire, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi.
Je ne suis pas vraiment d'accord avec l'analyse, parce que... Tu es un observateur dans la suite d'Apple autant que moi depuis des années. C'est un marqueur chez Apple depuis toujours.
Oui, bien sûr, évidemment.
Depuis l'arrivée de l'aluminium au sein du Mac.
Faire un quart d'heure là-dessus, ça veut dire aussi qu'on prend du temps. Chaque minute dans une keynote est calculée.
Là, ils avaient le temps parce que malheureusement, s'ils devaient mettre en avant les nouveautés de l'iPhone, ils n'auraient pas tenu une heure. En revanche...
Le petit tacle d'Olivier.
Non, mais c'est clair. La difficulté avec Apple, si tu veux, c'est qu'on a du mal toujours à percevoir s'ils sont sincères ou pas. Et c'est quand même une entreprise qui pèse des milliards et que.
Moi, je pense qu'il y a un peu de sincérité, il y a un peu de calcul aussi, ce qui est normal. Je veux dire, ils sont là aussi pour gagner des sous. Juste une petite.
La seule incohérence que je trouve dans le greenwashing d'Apple, dans le discours d'Apple, c'est qu'effectivement, ils ont été vraiment les premiers à abandonner les matières plastiques, à recycler, et ce depuis 2005-2006. Donc c'est très en amont, bien avant Samsung. Par contre, ce qui me semble totalement hors de propos, et totalement où là ils n'ont pas du tout évolué, et qui est quand même en contraire à cette idée de recyclage et de green, c'est qu'aujourd'hui les produits d'Apple sont très difficiles à réparer, sont très difficiles à faire évoluer. Tu vois dans le monde PC, dans le monde Android, des téléphones où on peut changer relativement facilement les composants et faire évoluer. Tu regardes les Microsoft Surface, par exemple, il est possible facilement de changer un disque SSD, par exemple, dans un ordinateur. Sur un Mac, ce n'est pas possible. Pour moi, le sens de l'histoire, c'est aller au-delà de dire « on va recycler », on permet à nos utilisateurs de changer des composants facilement. Et là, pour l'instant, ils se sont refusés à faire cette évolution, parce que tu sais très bien que le design d'Apple est... Ouais. Voilà, c'est un produit fini, fermé, et à l'instar d'une montre de luxe, tu ne vas pas l'ouvrir toi-même. Ouais. Tu vas aller chez un horloger.
Le contre-courant, il est là. Du discours
et je les attendais plutôt
entière.
Là-dessus, en disant, voilà... Anthony. On va faire un programme.
On a parlé des téléphones et ce qu'il y avait dedans.
Non, on va en parler, il nous reste un quart d'heure, mais l'environnement, ok. Juste pour commenter aussi cette keynote, il y avait le début de cette keynote avec cette vidéo qui était vraiment coup de poing. Hein, quand on voit qu'une boîte dédiée à la tech qui fabrique des téléphones et des montres commence sa présentation avec des témoignages de gens qui ont été sauvés par la technologie, et en l'occurrence la technologie mise au point par Apple, là on te touche en plein cœur et tu te dis waouh.
Tu dis coup de poing, c'est l'argument coup de poing. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça?
Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça?
Nos technologies, et vous sauve la vie.
Ça coûte, tu vois, tu ça coûte 1000 dollars, monsieur. Ok,
c'est ça,
1000 dollars.
Exactement.
Mais vous avez vu combien de gens on a sauvé.
Exactement.
Là
donc, il faut expliquer pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein, mais en gros, ils montrent des témoignages de gens qui ont l'Apple Watch et dont la vie a été sauvée parce que, par exemple, un problème cardiaque a été détecté ou alors parce qu'ils ont pu utiliser la fonction envoi de SMS par satellite.
Message par satellite parce qu'ils n'avaient pas de réseau, parce qu'ils étaient en pleine montagne.
Exactement.
Etc.
Et c'est vrai que la vidéo, en plus, était très bien montée.
Ouais,
alors, autant, je te dis, le sketch sur l'environnement, j'ai trouvé moyen. Autant cette vidéo-là, pour commencer la keynote, je me suis dit pas mal.
Et tu sentais
là
que c'était des vrais témoignages.
Ouais, c'est ça. Alors, donc c'était très costaud et bien joué à Apple pour le coup d'avoir commencé là-dessus parce que là pour le coup ça porte.
Alors, on est tous des geeks autour de ce studio, autour de cette table et c'est vrai que quand on discute avec sa famille, ses amis, en disant bon, vous êtes bien gentils avec vos gadgets tous les ans, l'environnement, etc., etc. Bon, c'est bien, mais bon, voilà, ça va pas plus loin. C'est un exemple concret que le smartphone, l'iPhone, qui a popularisé les smartphones, a vraiment changé la vie des gens. L'Apple Watch a sauvé la vie des gens. J'ai un témoignage d'un fan de l'émission Yami qui m'a envoyé un petit message juste avant l'été en disant Apple m'a contacté. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques mois, il avait fait un AVC et un problème cardiaque et c'est sa montre qui lui a sauvé la vie. Il a eu un problème, sa montre l'a réveillé, il a appelé le SAMU et le médecin lui a dit si vous n'aviez pas eu une Apple Watch, monsieur, on ne discuterait pas maintenant. Donc il a pris conscience.
C'est incroyable.
C'est incroyable. C'est... Et il a envoyé un message à Tim Cook qui lui a répondu apparemment très gentiment et apparemment des équipes de production ont pris contact avec lui pour faire une interview. Et bon, finalement, ça ne s'est pas fait pour X ou Y raison, mais il est parti à Cupertino, etc. Lui, il pensait que c'était pour faire un documentaire.
Il aurait pu être dans le film,
Julien,
en fait.
Julien, ce n'est pas pour le documentaire, tu verras, tu seras dans la prochaine keynote. C'est pour ça que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des avancées en matière de santé
mais
autour
oui.
de l'Apple Watch qu'on voit derrière toi, mon cher.
Je suis exactement d'accord avec
François,
toi.
Et en fait, non.
C'était très frustrant, parce qu'en voyant la vidéo, moi, c'est pareil. La première chose que je me suis dit, c'est parti. Exactement. Il va y avoir des nouveaux capteurs dans l'Apple Watch, peut-être pour la glycémie, pour les patients diabétiques, enfin des nouveautés. Et en fait, il y a des nouvelles Apple Watch, elles sont très belles.
Après,
et tout,
ouais. Mais vous le savez tout comme moi, c'est très compliqué. En plus, il faut des certifications médicales pour apporter une nouvelle fonction. Hein. Et déjà, l'Apple Watch fait plein de choses.
Il joue la montre quand même, François. Vraiment, il joue la montre. L'année prochaine.
C'est qu'à le dire.
Ouais,
ah oui.
Sans jeu de mots.
Pas mal.
Je n'ai vraiment pas fait exprès. L'année prochaine.
Elle est encore meilleure.
L'année prochaine, on va fêter les 10 ans de l'Apple Watch. On sent qu'ils en gardent sous le pied pour faire un gros coup l'année prochaine.
Je crois que l'année prochaine, il y aura
Mais ça fait des années qu'on attend un capteur de glycémie. Ça fait des années qu'on attend un vrai capteur de température.
Ouais.
On
a vu. Qui est déjà arrivé chez
Watch. Donc, on sent qu'ils en gardent sous le pied. Par contre, pendant ce temps-là, on voit que le marché des montres connectées se casse un peu la gueule. Hein, et en plus, comme le design d'Apple, cette fois-ci, évolue très peu d'une montre à l'autre, ce qui est plutôt assez rare chez Apple, que pendant 10 ans, quand on ne change quasiment pas un design, ça ne décolle plus vraiment.
Voilà pour, on va dire, la forme de cette keynote. C'était important de prendre le temps parce que c'était un peu le contexte dans lequel a été diffusée cette keynote. Maintenant, comme il n'y a pas grand-chose à dire, il nous reste 12 minutes pour évoquer un peu les nouveautés. L'iPhone 15, tu le disais, Anthony, pas grand-chose de différent par rapport à l'iPhone 14.
Mais ouais.
Nouvelle couleur.
Oui et non. Alors, il y a deux choses qui sont marquantes sur l'iPhone
15. On a déjà le même processeur que l'année dernière.
Non. Tu as le processeur de l'iPhone Pro.
C'est une resucée de l'iPhone 14 Pro.
Tu récupères par contre ce qui est important sur l'iPhone 15 que n'a pas l'iPhone 14, c'est que maintenant il a un zoom.
Il
a le zoom, c'est quand même important. C'est-à-dire
quand tu avais un zoom numérique avant.
Et tu as toujours un zoom numérique, mais sans perte. Parce qu'aujourd'hui, tu disposes d'un capteur 48 millions de pixels, donc tu peux zoomer numériquement sans perte.
Ouais, c'est pas un vrai zoom optique.
Ouais, mais c'est ce qui manquait le plus à l'iPhone, et ça commence à être intéressant pour qu'on a un petit besoin de production vidéo, de choses comme ça, on se dit « Ah, je le regarde différemment. »
Super, mais ça fait 10 ans que ça existe chez la concurrence.
Je suis d'accord avec toi.
Olivier. Alors oui,
ça mérite une keynote.
Je vais pas faire mon enfant gâté, etc. Ouais. Parce qu'on baigne là-dedans. Mais c'est bien, c'est très très bien pour les utilisateurs d'iPhone. Mais ça existe depuis...
Je suis d'accord.
La nuit des temps.
Et surtout les améliorations sur l'appareil photo, et c'est la même chose sur le Pro d'ailleurs, les appareils photo des iPhones sont extraordinaires, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que pour 99,9% des utilisateurs, l'évolution entre le 13 et le 14 et entre le 14 et le 15, elle sert à rien. C'est-à-dire que si t'es un photographe professionnel ou un réalisateur de films, oui, tu vas en avoir l'utilité. Pour la grande majorité des gens qui veulent faire des selfies pour les poster sur Instagram, prendre leurs photos de vacances, ça ne changera Strictement rien.
J'irai au-delà, Anthony. Je pense que quand on parlait tout à l'heure, les keynotes, pourquoi ils font chaque. Je crois qu'Apple a compris une chose, et parce que c'est leur cycle de renouvellement que les gens changent d'iPhone tous les 3 à 4 ans.
Oui, c'est ça, le temps de conservation moyen,
donc,
c'est 4
ans. Donc la manière dont ils font évoluer les produits, ils prennent ça en compte.
Oui, c'est ça. Et en fait, finalement, ce n'est pas d'une année non. sur l'autre. Qu'est-ce qui va changer par rapport à ton iPhone 12.
Donc le zoom 120 mm qui est derrière toi, Anthony, en image, eh bien, ça fait 3-4 ans qu'on attend, ils l'ont lâché cette année. Ce n'est pas un zoom télescopique, comme on a chez Samsung aussi évolué, mais ils ont fait un choix différent, peut-être plus pérenne en matière de maintenance, parce qu'on sait qu'il y a eu des soucis chez Samsung. Ça ne va pas aussi loin, c'est x5, c'est pas x10, mais ils l'ont mis cette année. Donc un pro, effectivement, qui a acheté un iPhone 11, un iPhone 12, il se dit « bon, je veux continuer à faire des photos et faire des vidéos », ben, il va signer sans hésiter parce qu'il y a une vraie avancée. Mais par rapport à l'année dernière, je suis d'accord avec toi, ça ne change pas grand-chose. Mais on le dit depuis des années, hein, ça ne sert à rien. Si vous avez l'iPhone 14, passez au 15. Ça ne sert à rien si vous avez l'iPhone 13, passez à l'iPhone 14. Et ils l'ont interprété. Et c'est ça aussi. Alors, je vais pour une fois prendre la défense d'Apple, parce qu'on me le dit à chaque fois. Olivier, tu es gentil de couvrir les keynotes d'Apple, etc. Mais arrêtez d'appeler à surconsommer. On ne parle pas de surconsommation. Les utilisateurs d'iPhone changent d'iPhone tous les 4 ans. C'est l'un des seuls constructeurs où les utilisateurs ont un cycle de vie aussi long.
Oui, et on pourrait même garder son iPhone plus longtemps.
Mais bien sûr.
Parce qu'il y a des mises à jour sur 6 ou 7 ans.
Alors que,
c'est vrai, on n'en a pas parlé en termes d'environnement et de durabilité de produits. Ouais. C'est peut-être les seuls à avoir autant de.
Ils sont plutôt meilleurs que la concurrence.
Ils sont meilleurs que la concurrence.
Ça dure plus longtemps. Ils coûtent plus cher et durent plus longtemps. Voilà. Message de pub.
Alors la vraie grosse nouveauté, c'est quand même la connectique. Ouais. On peut peut-être en dire
un nouveau
sur l'USB-C. C'est rigolo, mais ça m'a fait marrer parce que la façon dont il le présentait dans la keynote. Alors, ils n'ont pas passé beaucoup de temps à en parler quand même, parce que voilà. Mais tu avais l'impression quasiment que c'est eux qui avaient inventé l'USB-C. C'était voilà, this is amazing. Regardez, on a décidé vraiment que l'USB-C c'était formidable. Ils sont quand même un petit peu.
On n'a eu aucune pression là-dessus.
On n'a plus de pression du tout. Donc ils se sont un petit peu fait tordre le bras. Et alors le truc, quand même, le coup de pied de l'âne sur l'iPhone 15, parce que c'est une différence qui n'a pas été beaucoup relevée, c'est que sur l'iPhone 15, c'est un port USB 2.
Un 480.
Non, mais c'est fou, c'est une techno qui date de l'an 2000, quoi. C'est vraiment un truc. On est à l'USB 4 aujourd'hui.
Il n'y a aucun problème.
Donc sur le Pro Max, tu as l'USB 3, ce qui est quand même pas mal, mais sur le 15...
C'est 10 gigas, je crois.
Enfin, 10 gigabits, c'est du vrai.
C'est 480 mégabits pour l'USB 2 et le 3, c'est... Oui, c'est ça. Donc c'est dingue, tu te dis. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est une question de coût ou c'est vraiment, ils voulaient vraiment différencier le Pro par rapport à la version 15 de base.
Ça, c'est
là, je trouve ça un peu dur.
Tim Cook, tu vois, sur les prix, son métier, c'est segmenter les gammes. Et là, il a segmenté sa gamme. Vous voulez une plus rapide, vous prenez le Pro. Ce n'est pas une bonne chose, je suis d'accord avec toi, l'USB-C peut aller beaucoup plus vite. Les rumeurs annonçaient l'arrivée du Thunderbolt sur l'iPhone Pro, donc on s'attendait peut-être à avoir du USB-C sur le 15 tout court, et le 15 Pro en passant en Thunderbolt, et l'a passé à 40 gigabits. Mais voilà, tu l'auras l'année prochaine.
Bon, après, ne boudons pas notre plaisir pour tous les utilisateurs d'iPhone. Lorsque vous changerez votre téléphone, c'est peut-être pas cette année ou l'année prochaine ou l'année d'après, ben vous aurez l'USB-C et ça va vous...
Ça va vraiment nous changer la vie. Chaque fois que j'oublie mon câble dans la voiture ou que j'oublie dans le scooter...
Ouais, on est obligé d'avoir plusieurs câbles et tout. Là, tu vas te retrouver avec un USB-C, t'es tranquille.
Ça,
tu vois.
C'est top.
Par exemple, avec ton chargeur de PC, vous voyez, moi j'ai un PC, je pourrais recharger mon iPhone. Quoi. C'est quand même super pratique.
Ouais. On va voir quand même, lorsqu'on les aura en main, comment va se passer la charge rapide. C'est aussi performant que dans le monde Android notamment. On va voir si l'USB-C a toutes les vertus que peut avoir l'USB-C sur ton Mac ou ton PC, à savoir si on peut sortir vraiment de la vidéo, si on peut sortir vraiment de l'audio, si on pourra brancher un DAC pour les audiophiles, pour avoir, tu sais, de haute résolution. Ça, c'est un vrai défaut de l'iPhone aujourd'hui, contrairement au monde Android. Tu as beau avoir des AirPods Max, elles ne sont pas haute résolution en matière de sortie sonore. Il y a toujours une compression Bluetooth. Voilà, il y a encore pas mal d'inconnus. On a hâte de tester la semaine prochaine.
Sur ce sujet, tu as vu qu'ils avaient mis à jour les AirPods Pro 2, qui passent en USB-C, mais avec une nouvelle puce à l'intérieur. Alors là, on rentre dans les trucs de geek, mais qui permettent maintenant l'audio lossless, même sur les AirPods Pro. Ce qui veut dire que si vous devez vous offrir des AirPods Pro, attendez que les nouveaux avec l'USB-C arrivent, parce qu'il n'y a pas que l'USB-C qui change, ils seront aussi meilleurs en termes de son, même si le lossless n'est réservé que pour le Vision Pro pour l'instant et pas pour l'iPhone. C'est assez bizarre, mais bon.
Voilà, et surtout qu'on voit qu'Apple a beaucoup marketé l'audio spatial, beaucoup marketé le lossless.
Oui, le Dolby Atmos, tout ça.
Il l'appelle aujourd'hui chez Apple, le son de haute qualité dans Apple Music, et qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment rien pour écouter en haute qualité.
Il faut un câble et un casque.
Ou si ce n'est à écouter sur son Apple TV et brancher sur une chaîne audiophile. Voilà.
Donc, l'USB-C, ça c'est pas mal.
C'est bon.
Voilà. Ça existe depuis combien de temps chez Android, ça?
L'USB-C, bah, depuis l'USB-C la fin existe. De l'USB, du micro-USB, quoi. Mais ouais, ça, ouais, ça fait quand même quelques années.
C'est quand même un paradoxe, parce que non. C'est quand même Apple qui a populariser l'USB-C avec les premiers MacBook et les premiers MacBook Pro, ouais, souvenez-vous.
Après, il y a eu les iPads.
Enfin, bon, ouais. Ça, en tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Et rappelons que, quand même, il y avait la pression de l'Union européenne.
Complètement.
Hein. Ah non, sans ça, ils l'auraient pas fait.
Ils avaient jusqu'à l'an prochain pour le faire.
Bah, ils avaient encore un an. Mais là, cette fois-ci, ils n'ont pas joué la montre.
Non, c'est vrai. Voilà. Donc, ça, bon, pour la, on peut parler du Pro, peut-être.
Bien sûr.
Voilà, parce que, quand même, le gros morceau, c'est quand même ça. Le design qui change, donc, avec cette coque en titane qui va donc permettre d'avoir un téléphone qui normalement sera plus résistant et plus léger.
Je demande à voir, mais plus léger certainement.
Ouais. Plus léger. Et puis,
que le contour qui est en titane.
Ouais, tout à fait.
L'arrière, ça reste du verre pour charger par induction et devant surtout.
C'est vrai.
Alors on parle de titane, mais on ne sait pas trop. Le titane, c'est l'une des matières les plus résistantes au monde, je crois. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est du grade 5, il disait. Alors je ne suis pas un spécialiste des matériaux,
je crois
mais
que dans l'espace, il y a plein de
bien sûr. Ils nous ont fait la démo. Oui, c'est ce qu'ils utilisaient sur le Mars Rover.
Ça coûte un bras, mais surtout c'est ultra léger et très résistant. Ouais. Par contre, et c'est quelqu'un d'Apple qui m'a raconté ça il y a quelques années, parce que tu te souviens, il y a quelques années, Apple faisait des Mac en titane, le titanium. Le titane, ça casse. L'alu, ça plie.
Ah oui.
Ouais. Ah d'accord.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils m'expliquaient à l'époque pourquoi on abandonne le titane pour passer à l'alu. Aujourd'hui,
ils reviennent.
C'est intéressant. Mais alors, peut-être qu'ils ont fait
des alliages
avec un titane qui devient plus résistant à la casse.
Pour moi, il y a un autre élément aussi, c'est que cet iPhone en titane, il a un design qui est très distinctif, c'est-à-dire que tu peux le repérer. C'est aussi un marqueur social. C'est-à-dire l'iPhone, c'est un marqueur social, sauf que à l'œil nu, pour le non-initié, entre un iPhone 13, un iPhone 14, un iPhone 15, t'auras bien du mal à faire la différence.
À part la Dynamic Island, on ne voit pas y
voir. Voilà, exactement. Alors que là, avec celui en titane, il a ce look un peu industriel, tu sais, métallique, un peu brossé. Très, très beau, hein. Franchement, ils sont magnifiques. Celui-ci, tu le verras. Voilà, le gars qui a un iPhone, ah ouais, celui-là, lui, il a le dernier iPhone. C'est petit, c'est bas, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, pour moi, il y a aussi cet aspect-là qui va jouer dans le fait que ce sera un succès commercial.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont les moyens, qui vont s'offrir le 15 Pro simplement pour avoir un marqueur différenciant social.
Tu le montres, quoi.
Disant,
tu le
sais, aujourd'hui, t'as vu tout de suite, j'ai le nouvel iPhone.
Exactement.
Mais on le voit. Hein. C'est au-delà de la qualité des produits, parce qu'on oublie souvent que aussi la valeur ajoutée d'un iPhone, ça reste quand même iOS. Hein.
Voilà. Oui, c'est sûr que
ça reste et le complément interface logiciel OS et hardware. Mais c'est un marqueur social. C'est pour ça que l'image de marque d'Apple, elle est si importante parce que s'ils perdent ce côté un peu cool. Ça risque de faire du mal, notamment sur les nouvelles générations. Donc, il faut redorer ce blason. Voilà.
Si on regarde à l'intérieur maintenant, parce qu'il y a aussi ça, moi, c'est ce qui m'a peut-être le plus impressionné pour le coup dans la keynote.
Ouais.
C'est donc le nouveau processeur qui lui donne plus de puissance. Donc, nouveau processeur.
Et dans le jeu vidéo, ça a l'air
Alors, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai vraiment... c'est ce
Ils ont
quoi
fait
j'ai
des démos
plus...
de jeux vidéo.
C'est ce par quoi j'ai été le plus impressionné. C'est
un smartphone. Des jeux de vidéo AAA,
c'est exactement ça. Ils ont fait des démos avec Resident Evil Village, avec The Division aussi, enfin avec quelques jeux, avec du ray tracing, donc avec des technologies de gestion de la lumière. Waouh, là,
en gros,
ça quand même.
On a une puissance de PS5 dans un iPhone.
C'est ça.
Après, il faut jouer avec un écran tactile et un écran de 6 pouces. Hein, mais la volonté d'Apple, c'est vraiment d'attirer des éditeurs AAA aussi bien sur l'iPhone que à terme sur le Vision Pro, hein, le casque de réalité mixte. La difficulté, c'est qu'il faut faciliter les conversions de jeux vidéo. Ce que tu disais à l'instant, la nouvelle version de Metal et le ray tracing est un élément fort. Il n'empêche qu'ils ont quand même un peu de mal. Alors, ils ont annoncé quelques titres AAA qui arrivaient. Pour moi, c'est simple. Si Apple veut vraiment avoir beaucoup de titres sur iPhone et sur Apple Vision Pro, ils n'ont pas d'autre choix que de racheter un éditeur. Ouais. Depuis des années, c'est ce qu'a fait Microsoft. Ouais. Ils essayent de faire Microsoft avec Activision aujourd'hui.
Est-ce qu'on a besoin d'autant de puissance sur un petit écran?
C'est toute la question.
Autant sur un iPad, ça peut pas commencer à avoir du sens.
Il y a d'autres choses qui sont derrière.
Mais sur Apple TV, tu vois.
Après, ça permet aussi cette puissance-là. Donc, on n'a pas donné le nom, c'est le processeur A17 Pro. Donc, premier processeur aussi gravé en 3 nanos.
Ouais,
donc, ça c'est pas mal.
C'est une prouesse technologique.
19 milliards de transistors. Et donc, ça fait aussi que tu vas gagner en rapidité, tu vas gagner en autonomie. C'est-à-dire que même si tu joues pas à un jeu AAA, tu joues à un jeu un petit peu moins puissant, tu vas peut-être garder un peu plus d'autonomie, un peu moins chauffé.
Apple nous disait en off que, le M2, on a du mal à passer à 3 nanomètres. Vous verrez quand le 3 nanomètres allait arriver, vous allez avoir le même effet wow quand lorsque la puce M1, la première puce des Mac les premières puces Apple Silicon sont arrivées par rapport aux puces Intel. Et en fait, on s'aperçoit entre le M2, enfin entre la 16 et la 17, on gagne 10% en brut et on gagne quoi, 20% en GPU.
Quelque chose comme
c'est
ça.
Pas un gap énorme, c'est pas énorme hein, pour du 3 nanomètres. Et en termes d'autonomie, on gagne quasiment rien.
C'est-à-dire qu'il y a tellement plus de puissance que ça doit compenser en fait.
Ouais, donc on s'aperçoit la consommation électrique. Que voilà, la mariée n'est pas aussi belle.
Hein. Les prix, pour terminer. Alors l'iPhone 15 commence à 969 €, 1119
sous la barre des 1 000 €.
Voilà. Enfin. 1119 pour l'iPhone 15 Plus. Qui visiblement ne rencontre pas un super succès. 1229 pour le 15 Pro et 1479 pour le 15 Pro Max qui commence à 256 Go.
Juste un tout petit mot pour finir. Bon, il y a une fonctionnalité sur laquelle ils sont passés très très vite mais que j'ai trouvé assez intéressante. C'est celle qui fait le pont avec le Vision Pro. C'est-à-dire les deux capteurs.
De pour faire des photos à 180 degrés.
Exactement,
comme ça,
photos spatialisées ou vidéos spatialisées. Donc en gros, tu pourras avoir ensuite une modélisation 3D que tu pourras récupérer dans ton Vision Pro. Donc par exemple, tu pourras immortaliser ton anniversaire et tu pourras le revivre en 3D quasiment comme si tu étais. Ça, c'est pas mal. Faudra voir ce que ça donne en vrai parce qu'on n'a pas encore testé nous le Vision Pro. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de le tester bientôt. Mais
qu'ils ont ouvert, tu as vu des labos pour les développeurs en Europe. Allemagne,
on aura l'occasion d'en reparler.
C'est bien d'inviter que 2-3 journalistes à essayer ces casques.
Ah, ouais. Preneurs.
Un peu France, si vous nous entendez.
Mais bon, comme la date de sortie en Europe n'est même pas encore envisagée.
Non, quand même essayer, ça n'engage à rien.
Ouais, c'est sûr, mais bon.
Mais voilà, moi ce que j'ai trouvé très sympa, je ne sais pas si on a le temps, François.
15 secondes.
Ouais, Apple est en train de tuer le marché des caméras pro, tout simplement, avec ses téléphones. Là, la dernière fonction, on peut, grâce enfin à l'USB, brancher un disque SSD externe et tout enregistrer directement pour dérocher ses vidéos. Enfin, nous, on refait le Mac, les caméras pro pour nos reportages, c'est les iPhones. Hein, c'est terminé.
Et on ne parle pas du RAW sur les photos, enfin, ce format qui permet d'avoir une super qualité. Et bien voilà ce qu'on pouvait retenir de cette keynote Apple. C'était il y a quelques jours, iPhone 15, etc. Voilà, on a essayé d'être le plus neutre possible et nous donner notre sentiment. Alors c'est vrai que ça fait un peu enfant gâté, mais qu'est-ce que vous voulez ? Malgré tout, il faut essayer d'être...
On a dit que ça restait certainement les meilleurs téléphones du marché, donc on ne peut pas dire plus.
Merci beaucoup Anthony. Anthony Morel, qu'on retrouve toutes les semaines dans De quoi je me mêle et le matin sur BFM Business. Et merci à Olivier. On refait le Mac, bien évidemment. Enfin, on refait le Mac et puis toute la, on va dire, l'histoire de... On refait plein de choses.
On refait la F1 aussi.
La F1, tiens, voilà. Ça c'est nouveau. On
est tous des passionnés de F1. Beaucoup de tech en F1.
C'est vrai. Et dans un instant, la suite de ce De quoi je me mêle. Que vous soyez sur BFM Business, sur YouTube, on attaque notre deuxième partie avec Lionel Paris. On va parler tech. Bien sûr, et de la disparition de certains produits et puis de l'évolution d'autres. Vous restez avec nous, à tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, deuxième partie de votre De quoi je me mêle. Merci toujours d'être avec nous, à la fois sur BFM Business Radio Télé, mais aussi sur YouTube et sur la chaîne Tech & Co, que vous retrouvez sur les box opérateurs et sur Molotov aussi. Lionel Paris nous a rejoint. Salut Lionel.
Bonjour François.
Heureux de te retrouver. Bonne rentrée Lionel.
C'est ça.
Mais consultant oui, on y dans est. Le monde de la tech. Et oui, on y est. Vous allez voir que Lionel, pendant cet été, cette rentrée n'a pas chômé pour nous, avec un petit round-up des actus tech sympas. Alors on rentre un peu dans le dur, on va parler du Wi-Fi 7, on va parler de l'arrêt des nuques, on va parler de Starlink, mais je sais que c'est des sujets qui vous intéressent, donc on est à votre service, donc on va parler de ça. On évoquait il y a un instant avec Olivier Frigara et Anthony Morel l'iPhone 15.
Et oui.
Est-ce que l'iPhone 15 a boosté son Wi-Fi? Parce que c'est vrai que c'est important hein, le Wi-Fi dans un téléphone. Quand on est à la maison, voilà, on capte sa box. Il y a un meilleur Wi-Fi sur l'iPhone 15?
Eh bien oui. Enfin.
Ah, ça c'est cool.
Ça y est, alors ça a été, comme tu as pu le voir, absolument passé sous silence. Hein. C'est apparu dans
un petit logo.
Voilà, il y avait un petit logo Wi-Fi qui apparaissait très discrètement sur les pros, puisque malheureusement, il n'y aura que les deux pros qui vont bénéficier de l'évolution sur le Wi-Fi 6E.
Donc le 15 Pro et le 15 Pro Max qui passent en Wi-Fi 6E, ça c'est l'actu.
C'est ça.
D'accord.
Sachant que les deux autres donc, restent sur la génération précédente, qui est du Wi-Fi 6.
Grosse différence, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, on en a déjà parlé.
Oui, pour le rappeler très rapidement, tu as l'ajout d'une bande de fréquence supplémentaire, qui est donc le 6 GHz, qui va contribuer à vraiment désengorger les réseaux Wi-Fi existants. Donc c'est vraiment
un plus
significatif en termes de communication. Un téléphone, c'est un produit de communication. Et je trouve que c'est enfin, Apple ajoute cette fonctionnalité. Mais comme tu peux le voir, utilisent
sur les...
le Wi-Fi pour segmenter la gamme au même titre que vous en avez parlé tout à l'heure, au même titre que d'autres fonctionnalités, hein, que ce soit en photo ou autre. Et ben finalement, le Wi-Fi est aussi un outil de segmentation de gamme, ce que je trouve un peu dommage.
Voilà pour donc l'iPhone, hein, Wi-Fi 6E, il était temps. Il faut savoir que la concurrence est passée en Wi-Fi 6E depuis pas mal de temps déjà.
Dans le monde Android,
le concurrent ça fait direct depuis... Samsung, ça fait quoi, 2 ans?
Ah ben ça fait depuis 2021 que les premiers modèles sont arrivés.
Voilà, c'est ça.
Et cette année, on a quand même l'intégralité des annonces Samsung de l'année, hein, que ce soit du côté mobile, que ce soit les flips, que ce soit les tablettes ou que ce soit les Galaxy Book, donc la partie
ils
PC,
sont Wi-Fi 6,
ils sont tous intégralement Wi-Fi 6E. Mm-hmm. Donc là, c'est quand même, t'as un écart entre les deux mondes sur ce point-là.
Alors rappelons aussi que pour que ça marche, il faut avoir de l'autre côté une box, ou en tout cas un routeur Wi-Fi, Wi-Fi 6E, parce que si tu as du 5 ou du 6, tu peux avoir un Wi-Fi 6E, ça ne sert à rien, on est d'accord. Hein.
C'est-à-dire que là, on ajoute une bande. Donc, il faut que l'équipement
global soit compatible,
côté,
la chaîne soit respectée.
Bien évidemment compatible. Alors là, tu as des box sur le marché français. Si les gens qui nous regardent ont changé récemment de box, il y a des box qui utilisent le Wi-Fi 6E. Hein.
Ouais.
On a la Bouygues, on a l'Orange, bien évidemment qu'ils le sont. Et bien évidemment, tu as des produits complémentaires, des systèmes Wi-Fi qui te permettent de couvrir ta maison, on en a déjà parlé, hein, comme Orbi, qui te permettent d'avoir ce 6E et donc cette nouvelle bande dans la maison. Ça change la vie, c'est une vraie évolution.
Et alors, la grosse révolution aussi, c'est le Wi-Fi 7, alors qu'il n'est pas encore arrivé dans les iPhones, mais il y a très peu de smartphones, il n'y en a pas hein, d'ailleurs de smartphones qui sont compatibles Wi-Fi 7.
Il y a eu des annonces, mais ce n'est pas vraiment clair,
c'est vraiment
si c'est
le
maintenant
futur,
ou si ça sera dans quelques mois.
Voilà, mais en revanche, il y a un acteur qui commence à se positionner là-dessus, c'est Intel, un acteur important, hein, parce que si, c'est ce qu'on a dans nos PC, enfin il y a AMD aussi, hein, mais Intel qui ouvre la voie du Wi-Fi 7 et donc les composants Wi-Fi 7 arrivent.
Oui, j'ai trouvé en fait cette annonce assez surprenante parce que ça a été fait discrètement finalement. Intel a dévoilé lors de la conférence de presse Asus qui a été donnée à la Gamescom pour les gammes ROG. Hein, donc là, on est vraiment sur des produits gamers. Donc Asus, comme chaque année, utilise cet événement pour présenter des nouveaux modèles de cartes mères, des nouveaux modèles de cartes graphiques. On est vraiment dans l'écosystème gaming. Et puis, finalement, en introduction de cette conférence de presse, on a eu quelqu'un d'Intel qui est venu et qui a donc annoncé les nouvelles cartes qui vont être intégrées Wi-Fi, donc Intel, qui vont être intégrées dans ces cartes mères. Donc, sur les 4 cartes mères annoncées par Asus, tu en as 2 qui donc sont bien évidemment équipées de Wi-Fi 7.
De Wi-Fi 7, d'accord.
Donc là, c'était assez intéressant de voir ça, de la manière dont ça a été présenté. Et donc, tu te retrouves finalement avec des informations qui n'ont pas été officialisées par Intel. Intel n'a pas encore fait d'annonce sur le sujet.
Mais on sait que techniquement, c'est prêt.
Et
ça veut dire que demain, toute la gamme, enfin voilà, petit à petit, tous les PC qui sortiront avec des chipsets Intel seront Wi-Fi 7. Voilà,
c'est l'évolution naturelle. Et on a appris assez d'informations lors de cet événement pour savoir qu'il y aurait donc 2 modèles, comme dans la gamme Wi-Fi 6 aujourd'hui. On sait très bien que ça va absolument ressembler au modèle. Donc là, je les ai ramenés parce que bon, les gens ne se rendent peut-être pas compte. Qu'est-ce que le Wi-Fi à l'intérieur d'une machine? Voilà,
c'est
j'ai
fou,
ramené
hein.
les modèles actuels. Ça, c'est la carte Wi-Fi que vous avez dans un ordinateur portable. Hein. Bien sûr, pas dans un mobile. C'est encore plus compact et pas dans une tablette.
Après, il y a les antennes. Hein.
Oui, voilà. Bien sûr. Là, elles sont sorties de ces composants-là. On sait déjà que ça va ressembler au form factor actuel. Il n'y a pas d'évolution de ce niveau-là. On sait déjà qu'on va supporter bien évidemment les 3 bandes. On sait aussi que pour faire fonctionner le 6 GHz, il faudra bien évidemment avoir Windows 11, comme aujourd'hui.
Oui. Donc tout est prêt finalement. Et
voilà,
ça va arriver en 2024. D'accord.
C'est ça, c'est-à-dire que là, on n'a pas de date de disponibilité prévue sur ces produits-là. On sait que les cartes mères seront disponibles ce trimestre.
Ouais.
On attend qu'Intel annonce et officialise de manière formelle, puisque là, on a bien compris que c'est une annonce d'intégration.
Bien sûr, bien sûr.
C'est Intel qui est présent dans les produits de quelqu'un d'autre.
Et après, tous les grands constructeurs de PC prendront cette technologie et l'intégreront à leur PC.
Bien évidemment.
Je pense que CES, on aura des annonces là-dessus. Enfin, je veux dire, ça sera la généralisation du, du Wi-Fi 7, parce qu'il faut parler aussi des routeurs. Hein, et donc,
et tout ce qui va suivre derrière, les systèmes Wi-Fi, les box, enfin tout cet écosystème
va évoluer vers cette technologie. Et le Wi-Fi 7, c'est plus de débit, c'est plus de portée. Enfin voilà, c'est un Wi-Fi intelligent. C'est vraiment quelque chose qui va nous apporter plus de confort à la maison. Ah, ça, c'est certain.
C'est une évidence.
Tiens, puisqu'on parle d'Intel, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Parce que Intel arrête la production de ces petits PC qui, à un moment, étaient à la mode. Mm-hmm. Ces petites boîtes toutes mignonnes qui nous permettaient, malgré tout, de connecter un écran et d'avoir un vrai PC. C'est ce qu'on appelait les NUC.
C'est ça.
C'est ce qu'on appelle les NUC.
Je t'ai ramené deux exemples ici. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a en tête quand on parle de ces produits-là. Avec un produit...
Et ça, c'est un vrai PC.
Alors ça, c'est un vrai PC avec une puissance phénoménale. Parce que dans ces machines... On a les dernières technologies, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout des machines au rabais ou des machines d'entrée de gamme. On a vraiment la quintessence des gammes aujourd'hui avec des processeurs de dernière génération, des SSD qui sont rapides et puissants, des outils de communication avec de l'USB 4, du Thunderbolt, du Bluetooth, du Wi-Fi 6E, enfin bref. Et donc, si tu veux, Intel s'était fait un nom quand même sur ces produits-là depuis quelques années. Alors, c'est une gamme qui a commencé il y a plus de 11 ans.
On se rend compte, je te coupe une seconde, mais c'est vrai qu'on avait l'impression, en plus, que Intel avec les NUC voulait compenser les Mac Mini.
Bah, c'était un peu cible, si tu veux.
Une toute petite machine que vous pouvez cacher, vous branchez un écran dessus, et puis ça y est, vous bossez, quoi.
Mais bien sûr, c'était tout à fait l'idée quand ça a démarré il y a 11 ans. Et donc, cette division, la division NUC chez Intel, leur mission, avant toute chose, c'était d'arriver à mettre le maximum de performance CPU, donc processeur, et GPU graphique, dans la machine la plus compacte et la plus petite possible. Et donc, ils ont inventé un format qui n'existait pas à l'époque, qui est le NUC, et donc les cartes mères qui en dérivent, avec ce fameux 4x4, ce sont des pouces, mais ça signifie ni plus ni moins 10 cm par 10 cm.
La taille de l'appareil, en fait.
Dans la taille de cet appareil, vous allez me rentrer le maximum de technologie.
Ouais. Alors, ça faisait PC, ça faisait home cinéma, parce que ça pouvait servir de lecteur vidéo. Ça avait plusieurs usages, en fait, le NUC. C'est ça qui est top.
Si on repart il y a 11 ans, nos télés n'étaient pas capables de faire tout ce qu'elles font aujourd'hui. Ouais. Et donc, tu avais besoin de ce petit composant. Alors, avant, on ne mettait pas des tours où il y avait des gens qui mettaient des PC portables. Et ce produit a été un petit peu vu comme le sauveur des home cinéma, parce que ça permettait de diffuser n'importe quelle typologie de contenu. On pouvait glisser ça sous une télé. Il y a eu des variantes qui ont été sorties gaming, où là, c'est pareil. Ils ont réussi à miniaturiser dans ce format une vraie carte graphique. On sait à quel point... une carte graphique, c'est immense et énorme, ils ont quand même réussi à réduire l'ensemble de ces composants et à rentrer tout ça dans un format compact.
Pas mal. Bon, voilà. Et alors, pourquoi Intel arrête ?
Oui, parce que cet été, on voit cette nouvelle tomber, effectivement, à travers un communiqué de presse, finalement, qui était assez officiel et qui était un peu différent de ce qu'on voit passer d'habitude. Et ils nous annoncent qu'Intel va arrêter le développement, la fabrication et la commercialisation, parce qu'ils maîtrisaient toute la chaîne. Et que donc, on va pouvoir, les gammes ne s'arrêtent pas, on va pouvoir les retrouver, ils seront fabriqués à partir du mois de septembre, et commercialisés par Asus, que ce sera un système de licence non exclusif, donc d'autres marques pourront et sans doute s'y attacheront dans la foulée. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, Intel, le rationnel, c'est que quand tu regardes un petit peu les chiffres, si tu veux, les NUC, forcément... c'est 10 millions d'unités vendues par an. Quand tu regardes le marché du PC et du desk, bon, là on est sur des volumétrés plus de 300 millions.
Ouais, d'accord, donc c'est un échec.
C'est pas vraiment un échec dans le sens où Intel a été à l'initiative.
Oui, mais ça vaut pas le coup
d'investir
en R&D pour un si petit marché, en fait.
Exactement. Je pense qu'ils ont d'autres problématiques aujourd'hui, des investissements sur de la capacité de production pour retrouver une autonomie. Il y a un recentrage stratégique qui est très clair sur leur métier d'origine, qui est l'usine, le process de fabrication, et puis leur leadership produit sur les serveurs, les PC et l'intelligence artificielle. Je pense que Intel se recentre, on est un peu sur du back to basic, là où on revient sur les métiers d'origine. Et donc, en fait, tout simplement, ils passent la main, ils ont développé, créé un format et une marque qui est connue aujourd'hui, et ils vont passer la main. Alors, tu auras deux phases. La phase 1 qui a déjà démarré, tu peux aller sur le site d'Asus aujourd'hui et tu retrouves l'intégralité du line-up que tu avais avant sur les gammes Intel, sur le site d'Intel, qui est déjà disponible.
D'accord.
Ça, c'est la phase 1.
Ouais.
Et la phase 2 sera, Asus va lancer, développer et commercialiser ses propres NUC à leur nom. Donc, c'est pas un, j'ai vu des news où les gens parlaient d'enterrement de gamme, etc. Non, non, il y a vraiment un passage de main,
ouais,
qui s'effectue entre l'initiateur et les marques qui commercialisent les produits aujourd'hui.
C'est étonnant. On va suivre ça de près. Pour terminer, il nous reste 3 minutes. Lionel, j'aimerais qu'on parle de Starlink. Parce que, alors, c'est un sujet qu'on aime beaucoup. On en avait parlé dans De quoi je me mail. Voilà, cette révolution de l'Internet par satellite, très haut débit, avec une faible latence. Et contre toute attente, cet été, il y a eu plein de choses concernant Starlink. Bah, déjà, l'offre commerciale.
Mi-juillet, on en avait parlé rapidement. Effectivement, on voit cette offre qui tombe, où l'abonnement tombe à 40 euros par mois, et le pack. Donc,
alors qu'au départ, on était à 100 euros, je crois.
On était à 100 euros, puis en plus, c'est descendu à 50, mais ça faisait l'aller-retour sur les prix. Puis là, c'était assez dans le dur. Plus une promo qui n'était jamais vue, où on avait le pack antenne, donc motorisé toujours pareil, avec la box, qui était à 200 euros au lieu de 450. Donc bon, il y avait une date butoir, 31 juillet. Et donc forcément, tu t'en doutes. J'ai surveillé ça pendant les vacances. Et tout d'un coup, on voit promotion prolongée, tout début août. J'ai dit, tiens,
ça va.
Et puis finalement, quelques jours après, on voit l'écran de démarrage de Starlink change. Et là, on voit un message très clair qui dit qu'effectivement, cette offre sera donc continuée indéfiniment.
Ok, donc ce n'est plus une promo, c'est la nouvelle offre tarifaire de Starlink.
L'abonnement restera à 40 euros.
Ouais.
Et par contre, l'équipement, c'est là où j'ai trouvé ça subtil, j'ai dit tiens, pouf, l'équipement lui revient à 450.
Mmh.
Et donc, tu me connais, je creuse un peu, je regarde.
Ouais.
Et là, je vois l'apparition, j'essaye de m'abonner, et je vois l'apparition d'un kit filaire Ethernet optionnel. Je dis tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je commence à regarder, je fouille. Et là, tu t'aperçois qu'effectivement...
Ils ont mis à jour en fait leur système.
Leur système de la box et de l'antenne a été mis à jour. Tu sais, il y a différentes générations. Ouais. Ça fait quelques mois qu'on avait des infos qui sortaient un peu partout. Et donc effectivement, ce que je comprends derrière tout ça, c'est que...
Ils ont voulu brader en fait les fun stock
de la gen
précédente
1,
à 200 euros.
Ils viennent d'intégrer
avec la nouvelle.
Avec la gen 2.
Qui permet quoi alors en fait, en plus ?
Bah alors écoute, au passage, on perd un port Ethernet.
Mm-hmm.
On est toujours en Wi-Fi 5. Ne me demande pas le rationnel de ce truc-là, je ne le comprends pas non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant que tu vois dans le panier cet adaptateur optionnel, tu peux être certain que toutes les commandes maintenant qui sont fournies vont utiliser ce modèle de gen 2. Bon. En parallèle de ça, tu vois dans l'offre entreprise, tu as un modèle Gen 3 qui est arrivé.
Mmh.
Donc, qui lui est commercialisé maintenant, je ne vais pas dire de bêtises, 2800 euros.
Ah oui, ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose. Et qui lui voit arriver le Wi-Fi 6 et 2 ports Ethernet.
Ouais.
Donc, bon.
Après, peut-être qu'il permet plus de connexions simultanées, des choses comme ça.
Ils sont très opaques sur les détails. Il n'y a pas de visuel sur les packs, etc.
Combien de satellites, là, il y a une projection, je crois, de lancement de satellites et de couverture.
Cet été, on a vu beaucoup de gens qui ont pris des photos avec
les constellations
de satellites qui deviennent donc visibles.
C'est incroyable.
Donc, on en est à 4000 opérationnels. Là, maintenant, pendant qu'on se parle. Il y a un potentiel sur fin 2023 qui est entre 4500 et 5000. Parce que tu te rappelles qu'il y a des phases, on en avait parlé, c'est lancé, ensuite ils se mettent en orbite, et puis ils ne sont pas mis en service tout de suite. Et donc il y en a déjà 535 là qui sont déjà en haut et qui sont en attente.
Et qui vont se positionner pour aller rejoindre les 4000.
Et qui vont aller rejoindre les autres. Donc les 4005, on les a déjà, plus tous les lancements qui vont suivre. Donc, on sait qu'on est sur une fenêtre...
Et tout ça pour améliorer, évidemment, la couverture.
La couverture, la connectivité, la latence. Voilà. Plus il y en a, mieux ce sera.
Merci beaucoup, Lionel. Voilà l'actu de septembre sélectionné par Lionel Paris.
Voilà, les petits sujets.
Consultant en tech.
La rentrée.
Pour terminer ce De quoi je m'appelle, merci de nous avoir suivis, bien sûr, comme chaque semaine, BFM Business, la chaîne YouTube, sur la chaîne Tech & Co, sur les box et sur Molotov. Et on sera là, bien sûr, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.